Ici au matin de France Culture, on a mauvais esprit, on vous prépare pour jeudi une matinale consacrée à la France moche, celle des ronds-points, des entrées de ville, des nationales. N'hésitez pas à nous communiquer via Twitter vos plus beaux exemplaires de France moche, 7h43.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Depuis le 31 décembre dernier, l'agression d'une policière et de son coéquipier à Champigny-sur-Marne au soir du Nouvel An, la question des violences contre les forces de l'ordre et de l'insécurité en banlieue est revenue une nouvelle fois sur le devant de la scène politique et médiatique. Au-delà des habituelles récupérations partisanes, cet événement interroge, s'agit-il d'un banal fait divers qui aurait pu se produire n'importe où? Au contraire, ces policiers ont-ils été victimes d'une violence désormais ordinaire? Pour en discuter, nous sommes en compagnie de Mathieu Zagrodzki. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au CESDIP, le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes notamment l'auteur de Que fait la police? Le rôle du policier dans la société aux éditions de l'Aube. À côté de vous se trouve Christian Fautré. Bonjour. Vous êtes premier maire adjoint PCF de Champigny-sur-Marne. Que sait-on aujourd'hui sur ce qui s'est déroulé le 31 décembre dernier dans votre ville?
Ce qu'on sait maintenant, et c'est bien de pouvoir le dire aujourd'hui, c'est que la rapidité de la formation du 1er janvier dernier n'a pas permis de pouvoir donner le contexte dans lequel les événements se sont déroulés. Et c'est bien de prendre le temps de contextualiser l'événement, parce qu'en fait, il s'agit d'abord d'un fait divers malheureux qui aurait pu se produire dans d'autres endroits de France, puisque malheureusement, on est tombé sur un organisateur avec peu de scrupules, qui, pour des raisons très mercantiles, a organisé une soirée festive pour le Nouvel An dans un lieu où il était interdit de le faire, en toute illégalité, en toute sans responsabilité, et donc du même coup, effectivement, cette initiative s'est mal déroulée. Elle a été accentuée par le fait qu'elle a été mise à disposition par les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il s'est trouvé débordé, et le débordement a conduit à ce que la police soit amenée à se présenter, puisqu'il y avait un danger imminent pour ceux qui étaient rentrés à l'intérieur de la salle.
Donc, d'après ce que l'on comprend aujourd'hui, Christian Fautré, c'est une histoire extrêmement banale, une fête du réveillon qui est mal organisée, qui provoque un afflux d'individus avec une disproportion entre le nombre de personnes présentes et la taille de la salle.
Tout à fait, c'est une salle qui aurait pu contenir 200 personnes s'il avait eu si la préfecture avait accepté que ce soit un ERP, c'est-à-dire un établissement recevant du public, ce qui n'a pas été le cas. Donc il l'a fait en toute illégalité, donc ni la préfecture, ni la police, ni la mairie n'étaient au courant de cette initiative, ce qui fait du même coup aucune prévention, y compris de la police, a pu se faire à la proximité de ce bâtiment, et donc il y avait 200 personnes à l'intérieur et plusieurs centaines à l'extérieur. Et donc, la police a été amenée à se déplacer pour constater le déroulement de cette soirée. Au moment où elle est rentrée à l'intérieur du bâtiment, une des parois intérieures est tombée, créant une panique. Donc 200 personnes qui voulaient sortir et 400-500 qui voulaient rentrer. Donc la police a été obligée d'utiliser les moyens habituels pour pouvoir se dégager de cette situation et surtout de faire en sorte que les 200 personnes puissent sortir. Et c'est dans cette pagaille générale, cette panique générale que s'est déroulée malheureusement cette attitude gravissime contre deux agents de police.
Alors ça n'est pas le rôle de la municipalité d'organiser des réveillons du 31. Est-ce que ça révèle malgré tout une absence de loisirs de fête pour les jeunes, par exemple?
Je suis pas sûr, parce que il y a des vies associatives, par exemple, il y a des associations sur la ville qui organisaient des réveillons. Donc, traditionnellement, chaque année, il y a des initiatives qui se font, mais qui se font surtout en direction, des jeunes campinois, des familles campinoises. Là, il s'agissait d'une initiative dans un endroit qui était Champigny, qui aurait pu se passer dans les Yvelines ou dans l'Essonne, et il s'est passé que des centaines de personnes venaient de l'extérieur de Champigny. D'ailleurs, on s'en est rendu compte lorsque, à la fin de l'initiative et quand la police a fait partir les gens, ils se sont tous rendus vers la gare RER de Villiers, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient de toute la région parisienne de cette façon.
Cette agression de deux policiers est devenue un fait très largement commenté, c'est devenu même quasiment un symbole. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous cela injuste? Est-ce que ça révèle une situation, Christian Fautré?
Il est sûr que cette attitude lâche de la part de quelques individus qui s'attaquent à quelque chose quand même qui est quand même fondamental dans notre société, c'est quand même que ces fonctionnaires de police représentent l'État français, sont nécessaires pour la sécurité des biens des personnes, et donc c'est tout à fait lamentable qu'on puisse attaquer. En même temps, je voudrais préciser que il y a eu des dérapages de certains hommes et femmes politiques le jour même de l'incident, sans comprendre ce qui se passait. Je le dis parce que tout de suite, il nous a fait état de violences policières de la part de bandes de jeunes de Champigny ou des villes voisines. C'était pas du tout le cas. Ce soir-là, à Champigny, contrairement à ce qui s'est passé en France, le nombre de voitures a augmenté en France. Par contre, il a fortement diminué dans la ville de Champigny parce qu'on est passé de 13 voitures l'année précédente à 3 voitures. Mmh. Et les dispositifs qui ont été pris ces dernières années avec les bailleurs sociaux, avec les syndics pour empêcher que les poubelles, par exemple, sortent trop tôt, tout ça a porté ses fruits. Donc, la ville, en dehors de cet événement qui aurait pu être dramatique par ailleurs, s'est bien déroulée.
Alors justement, est-ce que vous considérez que c'est devenu un symbole injuste? Est-ce que vous êtes devenu une ville qui porte un certain nombre de problèmes qui finalement ne sont pas du tout réunis dans le lieu que vous administrez? Puisque je rappelle que vous êtes le premier adjoint à la municipalité de Champigny-sur-Marne, Christian Fautré.
Pas toujours, effectivement, parce que ce qui m'a un peu révolté dès le premier jour des événements, c'est que tout de suite, on a eu des propos politiques de droite et du gouvernement qui m'ont laissé un peu en colère.
Parce par exemple?
Lorsque on a, moi j'ai entendu les propos de Madame Le Pen, de Monsieur Wauquiez et y compris du président Macron, je trouve que on s'est vite précipité pour faire un raccourci un peu rapide sur des jeunes qui en voudraient. Les jeunes. D'ailleurs on dit pas des jeunes, on dit les jeunes. Mais les jeunes campinois, ces derniers jours ont plutôt réagi très positivement par rapport à ce qui s'est passé. On aurait pu avoir un embrasement. Il ne s'est pas du tout produit, ce qui veut dire quand même que, certes, il y a des problématiques qu'il faut continuer à discuter, à échanger, bien évidemment, qui posent des vraies questions. Mais en même temps, je trouve que c'est totalement anormal de stigmatiser les jeunes et de stigmatiser en même temps une ville et ses quartiers qu'on appelle populaires, ces grandes cités qui existent. Mais dans ces grandes cités, il se passe pas que ça, loin de là.
Justement, si vous deviez décrire la situation à Champigny pour une personne qui ne connaît pas du tout ce lieu, que diriez-vous, Christian Fautré?
C'est une ville très diverse, qui dans son habitat est très divers, du pavillon, du collectif locatif, du collectif en accession, une population dans ces grands quartiers d'habitat social très jeune, dans lesquels il y a une vie associative extrêmement importante et cette vie associative se traduit par des initiatives. J'ai pris devant moi le bulletin municipal exprès parce que on n'avait pas prévu ça, bien évidemment, mais dans ce même bulletin, un peu régulièrement, on fait état d'un certain nombre de jeunes qui, malgré les difficultés, malgré des fois l'échec scolaire, malgré les connaissances économiques des familles, s'en sortent. En tous les cas, moi je vois là un jeune qui fait de la poésie, un jeune qui monte une entreprise de chocolaterie, la vie associative, la politique de la ville qui se traduit par... moi je prends le quartier du Bois-l'Abbé, dont on parle très souvent, il y a 100 associations dans ce quartier. Donc ça veut dire qu'il y a une richesse sociale, une richesse réelle dans ce quartier, mais qui n'est pas mis à profit et qui se voit stigmatisé alors que par ailleurs, il se passe des choses très intéressantes.
Alors, c'est une ville de 76 000 habitants et il y a aujourd'hui donc un taux de pauvreté de 21%, un taux de chômage des 15-64 ans qui est aux environs de 15%. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, notamment que la politique menée par les différents gouvernements est... une politique qui rend de plus en plus compliquée la gestion d'une ville comme Champigny?
Oui, je partage ce constat parce qu'effectivement, là, on est en train de construire le budget 2018 et ça fait quelques années qu'on se voit contraint à le faire avec des moyens extrêmement réduits. Et on a perdu, par exemple, depuis maintenant 4 ans, 17 millions d'euros sur un budget de 130 millions de fonctionnement. Imaginons un instant
Alors comment faites-vous ?
Comment on fait ? On est amené à pendant une période, on a fait les fonds de tiroir, comme on dit, on a fait les économies, on essaie de rationaliser, de mutualiser, mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on va être obligé de regarder les actions, les prestations et les réduire, voire éventuellement à être contraint de réduire du personnel. Alors que dans une période, comme vous le décriviez à l'instant, il y aurait besoin de faire plus pour ceux qui ont le moins, je trouve que c'est une décision. Les décisions des gouvernements successifs sont lourdes de conséquences. Et je prends par exemple les emplois aidés. Je trouve que c'est complètement scandaleux qu'on les ait supprimés parce qu'ils apportent beaucoup à la vie associative. Ils sont extrêmement importants pour continuer le lien social qui est indispensable.
Mais alors, ce que disait le gouvernement lorsqu'ils ont été supprimés, ces emplois aidés, c'est qu'ils étaient pérennisés à tort. C'était un dispositif qui devait être mis à court terme et que finalement, eh bien, il devenait aujourd'hui un moyen de gérer à long terme la ville. Est-ce que c'est ainsi que vous le perceviez, Christian Fautré ?
Si on est contraint de pérenniser une telle situation, c'est bien qu'il y a un problème. C'est le problème qui perdure. Si les emplois aidés, on en a besoin, c'est parce qu'aujourd'hui, la situation sociale économique ne fait que s'aggraver. Et dans ces quartiers où on a concentré beaucoup de familles aussi en difficulté, par une politique de l'habitat et du peuplement qui n'était pas très bonne, on arrive à une situation, effectivement, où on est contraint de pérenniser ces emplois parce qu'ils rendent un service extrêmement important dans la population. La parentalité, par exemple, elle est indispensable aujourd'hui. C'est vrai que les conditions de vie d'un certain nombre de familles font qu'ils ont besoin d'être accompagnés.
Mais alors, vous auriez besoin de quoi ? Aujourd'hui, puisque vous dites que vous avez pris 17 millions, que vous avez été obligé de réduire de 17 millions un budget de 130 millions de fonctionnement, ce qui signifie que si vous aviez la possibilité d'avoir un supplément de budget, il irait où, Christian Fautré ?
Il irait dans tout ce qui nous permet de pouvoir, par exemple, continuer à développer tout ce qu'on fait dans le domaine culturel, sportif, les centres de loisirs, l'entretien des écoles, le numérique dans les écoles. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville, comme toutes les villes de France, pour pouvoir accompagner, je le disais, ceux qui ont le moins.
Mathieu Zagrossi, vous êtes chercheur, vous travaillez notamment sur la police. Lorsque vous avez entendu ce fait divers, je vous laisserai d'ailleurs le qualifier, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, c'est un symbole de plus ? Eh bien souvent, on le sait, les symboles médiatiques sont de mauvaises bases de réflexion. Ou bien pour vous, il y a de quoi penser dans cet événement ?
Je me suis dit que c'était un épisode supplémentaire d'un feuilleton qui dure depuis 30 ou 40 ans maintenant, de tension en fait entre police et effectivement ce qu'on appelle sans doute à tort jeunes, en généralisant un peu. En gros, des incidents, de toutes les manières, il n'y a qu'à regarder les deux dernières années. On a eu Viry-Châtillon, donc ces policiers qui ont été attaqués au cocktail Molotov et deux d'entre eux ont été gravement brûlés. On a eu Aulnay-sous-Bois et ce qu'on appelait l'affaire Théo, donc ce jeune homme qui a été gravement blessé par une intervention policière. En fait, on a des épisodes comme ça, récurrents, très médiatisés, certes, mais qui sont le symptôme de quelque chose de permanent depuis, comme je disais, 3 ou 4 décennies. C'est en gros une relation assez dégradée entre la police et une partie de la population, et où les deux sont socialisés en quelque sorte dans l'idée que le camp d'en face, si je puis dire, entre guillemets, est à combattre avec des représentations... Pardon, un ennemi, voilà, tout à fait, un ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des jeunes qui grandissent dans l'idée que la police, on doit se méfier de la police et on doit pas aider la police de quelque façon que ce soit. Et puis, on a des jeunes policiers qui arrivent dans des commissariats où ils sont socialisés professionnellement dans l'idée que la société autour d'eux est mauvaise.
Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez, Christian Fautré ?
Tout est fait pour effectivement faire en sorte qu'il y ait deux camps qui se regardent et qui se regardent très mal. Or, il faut qu'on puisse dépasser ce constat-là pour chercher d'où viennent ces problèmes. Pourquoi n'arrive-t-on, dans une société telle que la France, à se diviser en camps où on n'est plus capable de se parler les uns les autres ? D'un côté, les jeunes qui se trouvent pour une partie en difficulté, qui ne disposent pas toujours des réseaux nécessaires pour pouvoir trouver un stage, pour aller jusqu'au bout de leur volonté de formation. formation, pour aller trouver un travail, pour se déplacer, pour avoir un véhicule pour se déplacer. Et c'est vrai, du même. Et la police, d'un autre côté, qui se trouve aussi en difficulté, parce que les syndicats l'ont encore montré ces derniers jours, il manque de moyens. Et donc, on pourrait se poser la question aussi, que fait-on pour que la police aussi ait un rôle plus proche de proximité avec la population.
Mathieu Zagrosky, lorsque l'on a vu ces images, puisque donc cette scène a été filmée, l'une des nouveautés, c'est que bien souvent, les scènes de violence sont désormais des scènes captées que l'on peut donc voir et revoir. On a eu la sensation qu'il y avait une forme d'ensauvagement, parce que finalement, c'est toujours ça, en quelque sorte, le commentaire. Est-ce que ces faits existaient auparavant? Est-ce que ceux-ci sont portés désormais à notre connaissance parce qu'il y a des téléphones portables? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce type d'incident, quelle que soit d'ailleurs leur fréquence?
Les guet-apens, les agressions contre les policiers, les incidents de plus ou moins haute intensité existe depuis longtemps. Quand j'ai commencé à travailler sur la police il y a une quinzaine d'années maintenant, mes premières patrouilles avec des policiers français, lors de mes premières patrouilles avec des policiers français, parce que j'en fais régulièrement, j'entendais déjà ce type de récits. Les caillassages, des prises à partie, des faux appels au 17 pour juste faire venir une patrouille de police et l'attaquer, ça existait, ça c'est sûr. Il y a une amplification, comme vous l'avez dit, du fait des réseaux sociaux, parce que on cherche maintenant on filme tout, on filme les agressions, parce qu'on sait qu'on va faire du buzz, du retweet, qu'on va être beaucoup visionné sur Snapchat. C'est évident qu'il y a un effet multiplicateur. Alors ceci dit, ce que j'entends, c'est quelque chose qui est difficile à vérifier. Hein. Ce que j'entends dans les discours, alors je parle pas forcément des représentants syndicaux, mais vraiment des policiers de la base, c'est qu'il y a une forme de, je vais pas utiliser le terme de radicalisation parce qu'il est il est connoté, mais qu'il y a une violence accrue aujourd'hui dans une partie de la jeunesse par rapport aux générations précédentes.
Donc oui, plus de violence.
Alors encore une fois, c'est dans le ressenti des personnes de terrain, et il faut écouter les personnes de terrain, oui, c'est le cas. Néanmoins, le phénomène n'est pas complètement nouveau.
Que fait la police? C'est votre livre, Mathieu Zagrosky, que vous avez publié aux éditions de l'Aube. On vous retrouve en compagnie de Christian Fautré, premier maire adjoint PCF de Champigny-sur-Marne, aux environs de 8h20. Il est 8h sur France Culture.